Claudine Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Je disais à peu près 30 000 personnes touchées par ce syndrome au Québec, mais en même temps, c'est difficile vraiment de l'affirmer parce que la prévalence est plutôt inexacte par rapport au syndrome de fatigue chronique.
Oui, bien en fait, c'est difficile. On peut se fier un petit peu sur les statistiques canadiennes qui ont eu lieu en 2010. C'était des statistiques qui étaient faites par téléphone et puis on a fait une conversation téléphonique pour savoir les gens qui devaient être atteints. Et puis, au Canada, on a, avec ces statistiques-là canadiennes, au Canada, on avait environ 1,4 % de la population canadienne qui était atteinte de ce syndrome de fatigue chronique. Et puis, on avait fait des recherches pour le Québec. Et puis, c'était le même pourcentage qui était au niveau du Québec.
C'est difficile peut-être à établir une prévalence bien exacte parce que très difficile à diagnostiquer. Vous-même, vous avez reçu ce diagnostic en 2007, mais ça a été long parce qu'au départ, on pensait que vous aviez une dépression.
Oui, exact. Oui, c'est long, c'est difficile parce que les médecins ne savent pas exactement comment le diagnostiquer. Le diagnostic se fait sur plusieurs années. Et très souvent, le diagnostic va être un diagnostic de dépression au départ. Lorsqu'on parle de fatigue, très souvent, les professionnels de la santé mettent tout de suite le doigt sur la dépression assez rapidement. Et puis, comme le syndrome de fatigue chronique ou l'encéphalomyélite myalgique n'est pas bien connu, ce diagnostic-là arrive très souvent plus tard et malheureusement souvent trop tard pour les patients.
Trop tard parce que si c'était diagnostiqué plus tôt, on pourrait mieux réagir?
Oui, effectivement, parce que c'est certain que si le diagnostic est fait beaucoup plus tôt, on va avoir une meilleure un meilleur pronostic parce que c'est sûr que si on passe un petit peu en revue comment fonctionne le syndrome de fatigue chronique, tout est dans la gestion de l'énergie et plus on va pousser le corps à dépenser l'énergie que le corps a pas, plus on va se retrouver en crash, qu'on appelle, en défaillance énergétique. Et puis, cette remontée, lorsqu'il y a de défaillance énergétique, elle est très longue. Et évidemment, souvent, lorsque l'on parle de dépression, la première chose qui est recommandée est faire de l'exercice. Et puis, avec le syndrome de fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, les études ont très bien prouvé que l'exercice était inadéquate, mais plutôt le système d'énergie aérobique qui est la grande partie du fonctionnement de notre système énergétique lorsque l'on fait de l'exercice est très inadéquate. Et puis souvent les exercices sont prescrits beaucoup trop intensément et la personne va se retrouver en défaillance énergétique et puis c'est très, très long à remonter. Et même souvent, les personnes ne peuvent même pas remonter.
Parce que je lisais, Claudine, que faire son épicerie, ça peut être épuisant puis on peut prendre des jours à s'en remettre, là.
Oui. Oui, c'est exactement ça. Les symptômes sont énormes, mais le symptôme principal de la maladie, c'est le post-exertional malaise, c'est le terme en anglais utilisé, ou le malaise post-effort. Et puis, que ce soit des activités cognitives, physiques, stress intense, émotionnel ou qu'il soit petit, tous ces petits efforts-là, et quand je parle d'efforts, on pourra revenir, c'est quoi les efforts pour une personne atteinte d'encéphalomyélite myalgique, mais tous ces efforts-là vont faire en sorte que la personne va être en déficit énergétique, va se retrouver vraiment épuisée, et le retour à la normale d'avant, ce déficit énergétique-là, est très long par rapport à la dépense elle-même. Alors, ce sont un effort pour des personnes atteintes, ça peut aussi bien être la gestion du quotidien d'aller prendre sa douche. Alors, les personnes gravement atteintes, il y a environ 24 % 25 % des personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique qui sont gravement atteintes. Gravement atteintes, c'est quoi? C'est être alité et ne pas être capable de sortir de chez eux. C'est énorme, 25 % sur une maladie où l'invalidité est si grande. Mais...
Ben oui, puis surtout lorsque l'on sait que ça touche des femmes âgées, principalement entre 25 et 45 ans, donc en plein dans la vie active, et souvent des mamans. On s'occupe comment de ces enfants?
Oui, l'âge moyen dans le dernier, les dernières études qui ont été faites, c'était 33 ans. Bien sûr, les femmes sont plus touchées, mais il y a également des hommes. Il ne faut pas juste mettre les femmes, mais c'est sûr que les hommes. Il y a des enfants aussi qui sont touchés. Moins fréquemment, mais il y a des enfants qui se sont vus même à partir de 5, 7, 8 ans, qui est très dramatique. Ils perdent leur adolescence ou leur enfance complètement lorsqu'ils ont cette... Puis ils sont souvent très mal compris aussi de l'entourage. Là,
Bien sûr. Est-ce que l'on connaît les causes, Claudine?
Les causes sont... Non, pour l'instant, on ne connaît pas les causes. Par contre, on va connaître les déclencheurs. Il y a entre autres les déclencheurs des virus qui est le principal déclencheur. On peut parler de la mononucléose, des grippes, etc., tout ça. Ça font partie des déclencheurs, des toxines, c'est ça, toutes sortes de toxines qu'il peut y avoir au niveau environnemental, etc. Il y a les stress importants, il y a des grossesses, des vaccins, il y a différents... Puis il y a une partie aussi d'hérédité, parce qu'on voit dans les études qu'il y a des familles qui sont prises avec plusieurs sujets atteints de cette maladie-là. Alors, c'est sûr qu'avec l'hérédité et puis aussi différents virus, stress, intoxication durant la vie va faire en sorte que probablement, éventuellement, la maladie peut sortir.
Mm-hmm. Si on ne connaît pas les causes de cette façon, très difficile de prévenir dans ce cas-là.
Prévenir, très difficile. N'importe qui peut être atteint.
Ben,
là.
Oui. Et même quelqu'un en parfaite santé.
Même quelqu'un, oui. Puis la majorité des personnes qui sont atteintes d'encéphalomyélite méningique vont être en parfaite santé avant de tomber malade. Il y a des gens qui savent exactement l'heure, la date et le moment où est-ce qu'ils sont tombés malades par le virus et ils n'ont jamais récupéré de ce virus-là. Ils sont restés alités, épuisés complètement et puis... il y en a, c'est sévèrement atteint comme ça que ça s'est produit. Il y en a d'autres que ça fait plus progressivement sur une période de semaines à mois suite au virus. Il y en a d'autres aussi que ça peut se faire plus progressivement. Mais le virus est très, très proéminent dans les déclencheurs de la maladie et dans les études aussi qu'on voit là, passer.
Et vous qui êtes vice-présidente, oui, de l'Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique, est-ce que vous êtes au courant des recherches? Est-ce que ça avance? Parce que c'est un petit peu inquiétant. Ça touche quand même pas mal de monde. Ça nous tombe dessus sans crier garde. On ne connaît pas les causes, mais est-ce qu'on peut croire, avoir espoir en l'avenir?
Ben moi oui, l'espoir, il faut toujours le garder, c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous fait batailler, je pense, le plus grand, parce que j'ai jamais vu des personnes prises avec une maladie qui sont de si grands batailleurs, parce que c'est une maladie très invalidante, puis j'en côtoie des gens. Et puis oui, la recherche n'est pas très grande et quasiment nulle. C'est sûr qu'aux États-Unis, il y a un petit peu plus de grandes recherches qui se fait. En Europe aussi, entre autres, il y a des recherches qui se font présentement avec un médicament anticancéreux qui on a bien hâte de voir les résultats. Il y a des différentes recherches aussi avec les virus. On a également ici, on est super contents parce qu'on a un chercheur de Sainte-Justine qui a débuté un projet de recherche sur le syndrome de fatigue chronique. Et puis, il est justement dans le recrutement des gens pour pouvoir faire avancer les travaux sur la recherche. Est-ce que je pourrais donner le lien pour téléphoner si jamais il y a des gens qui avaient un diagnostic de syndrome de fatigue chronique de pouvoir téléphoner?
Bien sûr.
Pardon?
Bien sûr, vous pourrez laisser le lien, on le mettra sur notre site.
Oui, c'est la personne à contacter, c'est Ginette Lacroix. Au 514-345-4931, le poste 3263. Et puis, j'inviterais aussi pas seulement les personnes qui sont atteintes à participer à l'étude, parce que dans une étude, ce qui est important, c'est d'avoir des sujets aussi en santé pour faire la comparaison.
Ouais.
Alors, les personnes qui sont en santé, qui nous écoutent, qui auraient le goût de faire une différence pour ces gens-là, bien, appelez pour aller faire partie de l'étude. Ça serait super bien. Mais non, la recherche n'est pas assez développée.
Pas assez développée. Vous parlez de faire la différence. On parlait tout à l'heure lorsque ça touche les enfants, des préjugés. Il y a les proches aussi qui ont beaucoup d'impact. Et parfois, j'imagine que ce qui est difficile à gérer, c'est un petit peu les préjugés parce que ce syndrome-là, il est invisible.
Oui. Exactement. Les gens qui sont atteints n'ont pas l'air malades. Hein. On n'a pas de bras cassés, on n'est pas les jambes cassées ou quoi que ce soit. On n'a pas perdu nos cheveux. Il est invisible. Les préjugés et les regards sont extrêmement présents. On est dans une société de performance. Alors, oui. C'est certain que tout ce qui est fait, il faut que ça soit fait parfaitement, le plus vite possible. On en fait plein, etc., tout ça. Alors, et d'autant plus que la médecine a de la difficulté aussi à la reconnaissance de cette maladie-là. Plusieurs médecins ne
la reconnaissent pas,
ouais, ouais. Encore la maladie. Beaucoup de préjugés aussi, de diagnostics de syndrome somatoforme, etc., tout ça qui est donné. Alors, c'est difficile. On entend souvent des « ben force-toi, va courir, va faire de l'exercice, tu vas t'améliorer, c'est dans ta tête, si tu veux, tu peux ». Ce sont toutes des genres de phrases là, que les gens ont prises avec la maladie vont avoir entendues.
Mm-hmm. La gestion, vous qui vivez avec, on le disait tout à l'heure, depuis 2007, comment on la gère au quotidien?
Tout est dans la gestion de l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où la planification de nos activités, et là, je ne vous parle pas d'activités de partir magasiner, d'aller faire d'aller faire des courses, après ça, on va aller souper au restaurant, tout ça, on va revenir, puis c'est pas ça du tout, là. La gestion au quotidien, c'est OK, j'ai des enfants, je me lève, OK, on va leur faire à déjeuner, on va aller les reconduire à l'école, on revient, et après ça, souvent, il faut qu'il y ait une pause. Et ensuite de ça, on va recontinuer à faire quelques activités. Il n'y a pas une journée où cette gestion-là n'est pas calculée. Et c'est très clair qu'après l'entrevue présentement, oui. Je ne vais pas faire mon épicerie si je veux être capable de faire le souper des enfants.
Je vous avoue que c'est une question qui me brûlait les lèvres, Claudine Prudhomme. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu, cette entrevue-là? Vous avez dû la prévoir l'entrevue dans votre horaire, ça vous fatigue?
Oui. Oui. Ah ben oui, c'est certain. Je c'est sûr que cette entrevue-là a été prévue depuis que je sais que je vais faire l'entrevue. C'est prévu qu'il fallait que je me repose ce matin. Je ne pouvais pas partir ce matin, aller faire des courses et me dire je vais faire l'entrevue cet après-midi.
Mm-hmm.
Ça, c'est impossible. Ça aurait été impossible. J'aurais eu de la difficulté à vous parler. Déjà là que c'est difficile. Très souvent, étant donné que c'est en direct, de pouvoir dire les bonnes choses, parce que le cognitif est très affecté aussi pour les gens atteints de syndrome de fatigue chronique. Le fait de trouver ces mots, de souvent on a la difficulté à trouver les bons mots. Le cognitif est très affecté. Faire deux choses en même temps, c'est pratiquement impossible. Là. Souvent, avant, j'étais une performante, moi, avant. Alors,
vous étiez vétérinaire, vous étiez médecin.
Ben vétérinaire, oui. Alors, c'est sûr que faire 3-4 choses en même temps, c'était du quotidien à plusieurs fois par jour, là, à gérer 2-3 cas de médecine ou un cas de chirurgie, etc., tout ça, préparer l'autre. C'était de la gestion facile, mais c'est impossible présentement, là, parce qu'au niveau cognitif, il y a beaucoup d'atteintes neurologiques à ce niveau-là.
Mm-hmm. Quel est le soutien, on se dirige vers la fin, Claudine Prudhomme, quel est le soutien amené aux gens qui sont touchés par l'encéphalomyélite myalgique?
Mais il n'y en a pas.
Ouais.
Vous voulez dire le soutien qu'on devrait faire ou le soutien qui est présentement en place?
Ben, le soutien qui est en place, puis en même temps, évidemment, je vous lance sur les services, le soutien qui est amené par votre association.
Ah, par notre association, c'est sûr que, oui, l'association est là pour aider les gens atteints. Alors, c'est sûr que, oui, on va tenter de donner beaucoup d'informations aux gens atteints. On va tenter aussi de donner de l'information pour que les gens puissent les amener cette information-là aux médecins. On a des guides pour les médecins, justement, à offrir, qui ont été faits expressément pour les médecins, faits par des médecins aussi. Alors, c'est sûr que c'est des guides professionnels. On tente de faire reconnaître la maladie. On va offrir des conférences pour les patients, les professionnels aussi de la santé pour essayer de tenter de faire reconnaître la maladie.
Mm-hmm.
Alors, c'est un peu le soutien que la CHEM va avoir, mais c'est sûr que le soutien en termes médical, il y en a pratiquement pas pour les gens atteints.
Et de tenter d'amoindrir aussi les préjugés. Et je reviens avec toute l'influence des proches. Ça doit être important d'être capable de nommer ses limites.
Extrêmement important pour que la personne atteinte soit capable de dire ses limites. Et très souvent, les patients vont dépasser largement leurs limites, et ce qui fait souvent qu'ils deviennent trop épuisés. Mais c'est extrêmement important pour eux de dire leurs limites, oui. Et puis, c'est extrêmement important pour les personnes atteintes d'avoir le soutien et la compréhension des proches. Déjà là, ça diminue énormément le stress. De savoir qu'on est compris. Et puis, en ayant cette compréhension-là de la part de notre entourage, fait en sorte que la personne va se sentir mieux. Parce que le stress, c'est la pire chose pour l'épuisement, la fatigue, même pour une personne normale. Alors, pour une personne atteinte de syndrome de fatigue chronique, c'est vraiment important de diminuer le stress considérablement.
Et bien sûr, quand l'affection, le syndrome n'est pas reconnu par le spécialiste de la santé, ça aussi, c'est un facteur de stress. Là, on se bute vraiment vers un obstacle important.
Un très gros obstacle, et c'est la réalité de plusieurs personnes atteintes présentement lorsque ce n'est pas compris. Alors, c'est sûr que très souvent, beaucoup de gens vont abandonner. Et beaucoup de gens aussi ont été délaissés et les causes de décès, le suicide en fait partie beaucoup là, dans cette maladie-là.
Mmh. Eh bien, Claudine Prudhomme, vous êtes vice-présidente de l'Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette affection. On ne dit pas maladie encore, je pense. Hein?
Oui.
On peut?
Oui. Je dis oui parce que l'IOM, qui est l'Institut of Medicine, a émis en février les dernières lignes et ont vraiment insisté sur le fait que c'était une maladie. L'Institut of Medicine aux États-Unis est très reconnu et a une très, très grande réputation, fait des recommandations au gouvernement américain, justement, sur la maladie. Ils ont passé en revue plusieurs études et puis ils ont enlevé, justement, le nom syndrome de fatigue chronique. Mm-hmm. Ils portaient beaucoup préjugés à la maladie. Et ils ont carrément enlevé le nom syndrome pour mettre le mot maladie. Alors,
pour bien préciser.
Oui, pour bien préciser.
Eh bien, merci beaucoup de votre participation. Ça a été grandement généreux de votre part et puis au plaisir.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.